Nous sommes en train de méditer la vie d'Abraham ensemble. Pendant ces trois derniers dimanches, nous avons fait tout un parcours avec ce patriarche qui est appelé le père des croyants. Et je vous invite à lire dans le livre de la Genèse au chapitre 12 un épisode un peu particulier de la vie d'Abraham arrivé dans le pays que Dieu lui avait promis. Et Genèse chapitre 12, nous lisons à partir du verset 10. Genèse 12, à partir du verset 10. Abraham donc est arrivé dans le pays que Dieu lui a indiqué, qu'il lui avait promis. Et nous a-t-il dit, il y eut famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'apesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, Abraham dit à Saraï, sa femme, « Voyons, je sais que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diraient, « C'est sa femme !» Et ils me tueront et te laisseront la vie. Voilà ce que tu vas dire. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent, en effet, que la femme était fort belle. Les ministres de Pharaon la virent aussi, et ils en firent l'éloge au Pharaon. Alors la femme fut emmenée dans le palais du Pharaon. Quant à Abraham, le Pharaon le traita bien à cause d'elle. Et Abraham reçut du petit, du gros bétail, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Saraï, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit, « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur » Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le Négrin, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négev jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom du Seigneur. Jusqu'ici, notre lecture. On fait mémoire ces jours-ci de la libération de Paris. Aujourd'hui, il y a 70 ans, jour pour jour, la deuxième division blindée du général Leclerc passait la porte d'Orléans. Les libérateurs resteront dans l'histoire comme des héros aux côtés de bien d'autres résistants. Nous aimons les héros. Nous en avons besoin. Ils nous font rêver. En écoutant leurs exploits, nous sommes émus. Nous avons l'impression d'être grandis un peu aussi, parce que ces héros nous donnent finalement une belle image de notre humanité. Ils sont ce que nous voudrions être. Mais de quoi est faite véritablement l'étoffe des héros? Je ne parle pas de l'image extérieure, mais de ce qui fait leur réalité profonde, leur véritable patte humaine. On constate que rares sont les héros sur toute la ligne. Les hommes et des femmes exceptionnels peuvent manifester des failles douloureuses dans certains domaines ou à certains moments de leur vie. Et c'est ce que nous voyons ici avec Abraham. Il est incontestablement une figure admirable pour tous les croyants, mais il n'est pas admirable sur toute la ligne. La Bible nous le dit en toute honnêteté. Et ce matin, il nous faut parler ensemble d'une faille manifestée par ce grand homme de foi. Comment allons-nous en parler? C'est une autre question. La Bible a été écrite pour notre instruction. Il nous faut donc apprendre quelque chose de cet épisode, cette facette inattendue d'un homme de Dieu admirable et admiré. Rappelons la situation. Abraham a quitté Ur, puis Haran en Chaldée, pour répondre à l'appel du Dieu unique qui lui était apparu. « Va, lui avait dit le Seigneur, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà l'appel d'Abraham. Après un éprouvant voyage, nous l'avons vu dimanche dernier, il arrive avec toute sa caravane au pays de Canaan. Et au temps choisi par Dieu, Dieu lui apparaît à nouveau, s'atteste clairement à Abraham, lui renouvelle sa promesse. « C'est ce pays, dit-il, que je donne à ta descendance. » Abraham possède là, avec cette apparition du Seigneur, avec cette révélation très claire, un repère fort qui l'aide à savoir qu'il est là où il doit être. Il sait que l'unique Seigneur qu'il a appelé est avec lui. Il n'a pas encore de lieu fixe pour lui et toute la caravane qui l'accompagne, mais là où il s'arrête, il bâtit des autels, il invoque le nom du Seigneur. Les pierres étaient souvent, en ce temps-là, des signes de propriété. On marquait ainsi son territoire avec des pierres, des bornes. Les pierres et les autels d'Abraham expriment autre chose. Elles disent que cet étranger qui ne possède rien trouve appui et recours en son Dieu sur la terre où il n'a rien qui lui appartienne. Telle est donc la situation d'Abraham, une situation parlante de ce que signifie la foi, ne pas avoir entre nos propres mains les sources et les fondements de notre vie ou de notre assurance, mais avoir recours à Dieu, un Dieu vivant, pour trouver en lui nos fondements. Voilà donc Abraham dans le pays que Dieu lui donne, et nous dit le texte, il y eut famine dans le pays, et même une famine qui s'appesantissait sur le pays. C'est un choc, reconnaissons-le, de lire cela juste après les promesses de Dieu. « Va dans le pays que je te montrerai, je te bénirai », disait le Seigneur. C'est un choc, juste après l'assurance donnée par Dieu à Abraham qu'il est bien là où Dieu le veut. C'est un choc après ce que Dieu a demandé à Abraham, « Quitte ton pays vers le pays que je te montrerai ». À Ur, en Chaldée, il n'y a pas de famine. On est là au bord des grands fleuves, d'un des plus grands fleuves du monde, dans une plaine riche, fertile, une zone commerciale intense aussi. Et là, en Canaan, là où Dieu envoie Abraham, où Dieu veut le bénir, il y eut famine dans le pays. C'est un choc. Et c'est une épreuve surtout, car il faut faire face. Et Abraham, rappelons-le, a la responsabilité de tout un clan, des centaines de personnes qui sont là, des milliers de bêtes. Abraham a dû guetter une amélioration de la situation, mais elle n'est pas venue, car, nous dit le verset 10, la famine s'appesantissait sur le pays. Et Abraham n'a pas d'habitation, il n'a pas de ville, il n'a pas de lieu de stockage où il aurait pu avoir quelques réserves pour faire face à une famine qui survient comme cela. Il dépend pour sa survie, pour celle des siens, de ce qu'il peut trouver dans le pays. Mais que se passe-t-il donc alors qu'il y a famine dans le pays que Dieu a promis à Abraham? Voilà une situation qui nous interpelle. Quel éclairage lui donner? D'abord peut-être un regard sur le rapport entre foi et difficulté de la vie. Vivre avec Dieu ne signifie pas être exempt de toute difficulté. Nous aimerions que nous puissions dire « Je vis avec Dieu, je suis dans sa volonté, donc je n'aurai pas de problème, donc je ne rencontrerai pas de difficultés. » Nous aimerions que ce soit comme cela. Mais ce serait quand même un peu trop simple. Cela nous sortirait du lot commun des hommes. La foi pourrait devenir aussi une démarche très intéressée. On aurait foi en Dieu juste pour ne plus avoir de problème. Cela ne peut pas être tout à fait cela quand même, le vrai but de la foi. Et puis, qu'on le veuille ou non, affronter les difficultés qui surviennent, cela nous grandit, cela nous apprend des choses. Nous trouver en situation de dépendance, d'appel, de besoin, de persévérance, cela peut devenir pour nous l'occasion de belles expériences, de bons apprentissages. Ça fait partie de l'apprentissage de la foi. C'est comme cela aussi que l'on découvre le soutien de Dieu, sa fidélité, ses ressources, ses délivrances. Alors bien sûr, il ne s'agit pas non plus de glorifier les difficultés, mais reconnaissons qu'il y a place pour de vraies expériences de difficultés rencontrées dans notre vie si nous voulons apprendre, si nous voulons grandir, si nous voulons mûrir. Qui n'affronte rien ne progresse pas. Et c'est pour cela que Dieu permet parfois qu'il y ait des difficultés avec la foi. Un autre éclairage pourrait être projeté du point de vue de ce qu'est la vie de foi. Abraham a eu confiance en Dieu. Il a quitté son pays, il est arrivé dans le pays que Dieu lui indiquait. Mais le fait d'arriver dans ce pays que Dieu lui indiquait ne signifie pas que son chemin de foi est terminé pour autant. Il est dans le pays que Dieu lui indique, oui, mais son chemin de foi n'est pas terminé pour autant. Il est là où Dieu le veut, mais maintenant, il doit continuer son apprentissage de la foi. Et comment ? Il doit continuer son apprentissage de la foi en vivant avec Dieu chacune des circonstances qu'il rencontrera, les plus agréables comme les plus exigeantes. Abraham, notre père, a été à l'école de la foi. Et son arrivée en Canaan, dans la terre que Dieu lui donnait, n'a pas été l'aboutissement de l'apprentissage, mais la continuation de cet apprentissage. Et qu'il y ait famine dans le pays fait partie de l'apprentissage. Ça veut dire quoi, avoir foi en Dieu dans une telle situation? C'est ce que Dieu veut apprendre à Abraham. Et c'est bon de relever cela pour nous aussi. Nous pourrons peut-être nous dire, en regardant au chemin que nous avons déjà parcouru, j'ai déjà fait un ou beaucoup de grands pas avec Dieu, j'ai obéi à sa voix, j'ai franchi telle ou telle étape importante. C'est bien, c'est très bien s'il en est ainsi, mais l'apprentissage continue. Tout comme pour Abraham, être en Canaan signifiait la continuation de l'apprentissage. Et maintenant, il faut, là où tu es, chaque jour, vivre avec Dieu, découvrir ce que veut dire la vie avec Dieu en face des situations que tu connais, que tu rencontres. Nous restons à l'école de l'apprentissage de la foi. Nous restons à l'école de l'obéissance. Nous restons à l'école de la confiance. Nous restons à l'école de la persévérance. Chaque circonstance de la vie que je traverse, chaque situation que je connais, les rencontres que je fais, les gens que je dois fréquenter au quotidien, tout cela participe à cet apprentissage d'une vie où je suis appelé à refléter ce que Dieu veut que je sois parce que je le connais. Il y eut famine dans le pays. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie, de la foi qui continue pour Abraham. Comment réagir à cela quand on connaît Dieu ? Comment réagir à chaque chose qui survient quand on connaît Dieu? Notre appel, c'est de donner jour après jour une réponse appropriée à cette question par nos attitudes et par nos actes. Il y eut famine dans le pays, nous dit le texte, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'appesantissait sur le pays. Ce séjour en Égypte ne sera pas l'épisode le plus glorieux de la vie d'Abraham, loin de là. Comment donc considérer l'initiative d'Abraham qui descend en Égypte? Ce n'est pas très facile, car le récit nous donne peu de clés. Faut-il dire que le fait de quitter la terre de Canaan était en soi une désobéissance ou un manque de foi? Rien ne permet de l'affirmer. Quelques générations plus tard, on voit Jacob dans une même situation qui va s'approvisionner en Égypte lors d'une famine en Canaan. Et Dieu fera même à ce moment-là de l'Égypte le moyen de salut pour Jacob, pour ses fils, pour les Égyptiens, pour beaucoup, en mettant d'ailleurs un fils de Jacob, Joseph, à la tête de l'Égypte. Bénéficier donc des ressources d'un pays comme l'Égypte n'est en aucune manière quelque chose de péjoratif au temps des patriarches. Alors c'est sûr que plus tard, après l'histoire d'Israël, lorsque, après la libération d'Israël hors de l'esclavage d'Égypte, le recours à l'Égypte sera vu bien plus négativement, comme une sorte de retour en arrière par rapport à ce qu'on en a quitté, dont Dieu nous a délivré. Mais ce n'est pas le cas pour Abraham. Il pouvait être légitime pour lui de bénéficier du recours de l'Égypte. Tout comme pour nous, il est légitime d'avoir recours à certaines ressources humaines que Dieu peut nous donner. Cela fait partie des grâces de Dieu pour nous. Ça, je crois que c'est ce qu'on peut dire sur le principe. Certainement qu'Abraham n'a pas fait de faute en quittant Canaan pour aller en Égypte. Ça pouvait faire partie des ressources de Dieu pour lui. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où quelque chose cloche dans l'initiative d'Abraham? Ce qui frappe quand même dans le récit, c'est un silence, un grand silence. Il n'y a aucune mention de Dieu, aucune mention de Dieu dans tout le récit. Simplement Abraham fit, Abraham dit, etc. Le seul moment vraiment où Dieu intervient, c'est vraiment lorsque, de sa propre initiative, il agit pour délivrer Abraham. Mais du côté d'Abraham, aucune mention de Dieu, aucune prière, aucune invocation de Dieu par Abraham, alors qu'il était dit, il invoqua le nom du Seigneur quand il était à Bethel. Aucune référence à Dieu dans les paroles d'Abraham lorsqu'il fait ses petits plans. Aucun recours à Dieu lorsque Abraham commence à avoir peur de ce qui peut lui arriver en Égypte. C'est seulement après cet épisode, lorsqu'Abraham à nouveau invoque le nom du Seigneur, ce qu'il faisait avant. Mais voyez, ça montre que on a le sentiment vraiment que ce séjour en Égypte a été une sorte de mise en parenthèse par Abraham du recours à Dieu. Et pour moi, c'est la clé de cet épisode. Abraham décide tout seul de ce qu'il doit faire. Abraham réagit tout seul. Abraham réfléchit tout seul. Il n'intègre pas Dieu dans ce qu'il vit, dans ce qu'il choisit. Il n'invoque pas Dieu avant de partir. Il part simplement. Peut-être était-ce un bon choix d'aller en Égypte, mais c'était pas bien d'y aller comme ça. C'était pas bien d'y aller comme ça tout seul, sans chercher Dieu, sans s'appuyer sur son Dieu. Abraham, me semble-t-il, va faire l'expérience et la démonstration de ce qu'est un croyant lorsqu'il n'a plus recours à celui qui croit, lorsqu'il n'est plus relié à son Seigneur. Il me semble que c'est comme ça que nous pouvons lire ce récit. Alors ça donne quoi ? Ça donne quoi à un héros de la foi qui a oublié son Dieu au moment où il prend en main son avenir ? C'est pas très glorieux quand même. Arrivé près de la frontière de l'Égypte, Abraham commence à sentir la pression qui monte. Il ne peut pas passer inaperçu avec tout ce clan, ces dizaines, ces centaines de personnes qui l'accompagnent, tous ces brebis, etc. Il doit percevoir aussi une certaine suspicion à son encontre. Il est un étranger qui vient là sur le sol d'Égypte. Et on sait d'après l'histoire que quelques décades avant Abraham, il y avait eu toute une série d'étrangers venus d'Asie qui étaient arrivés en Égypte dans le delta du Nil par le même chemin que prenait Abraham et qu'ils avaient semé des troubles dans le delta du Nil. Probablement qu'Abraham a perçu à son égard de la méfiance, de la défiance parmi les populations frontalières. Et puis sa femme, Sarai, elle est d'une beauté rare. Elle ne passe pas inaperçue. Et les histoires circulent aussi à propos de tous ces informateurs de Pharaon qui quadrillent le pays en quête de tout renseignement utile. Vous savez, Pharaon, la spécificité de l'Égypte, c'était que le roi était vraiment le roi de tout un pays, sur tout un territoire. Ailleurs, c'était des petites villes-cités, donc c'était facile de tout contrôler. L'Égypte était un plus grand pays, il fallait des informateurs pour faire le ministère de l'Intérieur, la Sécurité, tout ça. Et donc, il y a tous ces informateurs du Pharaon qui quadrillent le pays en quête de tout renseignement utile à la sécurité et au pouvoir de Pharaon. Et parmi les choses qu'ils peuvent observer et remarquer, il y a justement ces beautés féminines, qu'elles soient égyptiennes ou exotiques, qui sont susceptibles d'enrichir le harem du Pharaon, qui faisait aussi la gloire du Pharaon. Sarai incarne l'une de ces beautés étrangères. Et Abraham commence à se dire que si vraiment Pharaon s'intéresse à Sarah pour son harem, sa vie à lui, le mari gênant, sa vie à lui, l'étranger, ne pèsera pas lourd dans la balance. Et nulle loi, nul droit pour le protéger. Pharaon est maître en son pays, Pharaon est même Dieu en son pays. C'est comme ça qu'il était considéré. Donc la peur d'Abraham qui s'installe profondément dans l'insécurité qui est la sienne en tant qu'étranger dans ce pays. Ça nous rappelle que certains d'entre nous, qui ne nous trouvons pas forcément dans notre pays, nous pouvons vivre aussi parfois ces sentiments d'insécurité. Ça arrive, c'est pas facile. Alors un plan germe dans son esprit. Ah, si Sarah se déclarait être la sœur d'Abraham, ah là, il ne sera pas tué si Pharaon la veut pour son harem. C'est le seul moyen d'avoir la vie sauve. Et il risque même, lui, Abraham, d'être honoré de cette façon-là. Il a ce plan et il ose en parler à Sarah. Ouh, il a dû y mettre les formes, hein, ça j'imagine. Mais la formation biblique, la formulation biblique ne retient que l'essence du propos d'Abraham, malgré tout ce qu'il a pu mettre autour pour en parler à sa femme. Ça revient à un petit calcul qui est quand même bien pitoyable. Si tu dis que tu es ma femme, tu seras laissé en vie et moi je serai tué. Si tu dis que tu es ma sœur, je serai bien traité à cause de toi et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. Le souci, c'est clairement moi. Ma vie sauve, dit Abraham. Le texte le fait bien ressortir. Alors ce sera grâce à toi, ma chérie, ma belle, grâce à toi. Oui, dit Abraham, tout de miel, la formule est belle. Mais derrière cela, pour Sarah, il n'y a rien de moins que le harem de Pharaon. C'est comme ça, grâce à toi, ce que ça veut dire. C'est elle qui porte tout dans l'histoire. C'est elle qui porte le mensonge. Monsieur Abraham laissera parler sa femme. C'est elle qui porte les conséquences. C'est elle qui sera dans le harem et éventuellement dans le lit de Pharaon. Monsieur Abraham se tiendra à l'écart, ne voudra rien savoir, mais il aura la vie sauve. Et si la vérité éclate, c'est elle qui sera en première ligne au cœur du palais. Monsieur Abraham aura peut-être le temps de partir pour garder la vie sauve. Courage, fillon, que c'est beau, monsieur Abraham. Que c'est beau, monsieur Abraham. Alors évidemment, on peut se dire que quand on est en situation d'extrémité, le calcul est peut-être logique. Si Pharaon te veut, toi, autant qu'il n'y ait pas un deuxième malheur qui nous séparerait pour toujours. Ça peut être un calcul en disant, voilà, de toute façon, toutes les issues sont bloquées, on choisit la moindre. Le seul défaut, c'est que ce calcul, s'il est fait comme cela, repose sur l'hypothèse que Pharaon ne respectera pas un étranger et son épouse qui viendrait lui demander asile. Mais dire « c'est ma sœur », c'est ouvrir tout grand la porte à tous les appétits du Pharaon, en toute légitimité pour lui. Dire « c'est ma sœur », c'est aussi mentir au Pharaon, c'est le tromper. Alors bien sûr, la suite du récit nous apprendra qu'en fait, Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Mais même cette demi-vérité était un mensonge, car dire « c'est ma sœur », ça voulait dire « ce n'est pas ma femme ». C'était ça ce que ça voulait dire pour Pharaon. Et ce demi-mensonge est en fait un vrai mensonge. Et qu'aurait dû inventer Sarah pour expliquer qu'elle n'était plus vierge ? Qu'elle était veuve ? Trouver une autre explication à tout ça ? Ne pas se tenir dans la vérité, c'est devoir enchaîner les mensonges l'un sur l'autre. Un mensonge qui doit justifier le mensonge précédent. Et c'est aggraver son cas devant le Pharaon. Il était considéré comme Dieu dans son pays. Lui mentir était un crime de lèse-majesté suprême. Que manque-t-il à Abraham dans ses piètres calculs ? Il manque, me semble-t-il, l'ouverture à une action possible de Dieu. Si tu veux que nous entrions dans le pays, fais-nous trouver grâce aux yeux de Pharaon. C'est une prière possible, imaginable, dans cette situation. Avec cette seule prière, Seigneur, si tu veux qu'on entre, fais-nous trouver grâce, protège-nous. Avec cette seule prière, tout peut rester droit. Si on a la confiance en Dieu comme cela, Abraham peut rester solidaire de sa femme plutôt que de l'exposer pour sauver sa peau. Ils peuvent ensemble se tenir dans la vérité plutôt que de s'enfoncer dans le mensonge. Ils peuvent rester un couple uni et confiant l'un dans l'autre. Car dites-moi, après ce magnifique numéro d'Abraham, à votre avis, quelle confiance Sarah peut-elle garder en son mari pour le protéger ? Pour être présent et solidaire en cas de coup dur. Ça fait quand même un choc à leur relation, ce petit plan d'Abraham-là, après ce qu'elle a vécu Sarah. Que manque-t-il à Abraham dans ses piètres calculs ? Le souvenir aussi de la promesse de Dieu qui s'engageait en sa faveur. Dieu avait dit « Je bénirai ceux qui te feront du bien, je maudirai, je ferai du mal à ceux qui te maudiront ». Ça voulait dire, tu comptes sur moi, je veillerai sur toi dans les situations que tu rencontreras. Il y avait là une promesse qui aurait pu donner à Abraham une autre perspective que ses petits calculs. Mais Abraham avait fermé la boîte de ses horizons aux seules possibilités et aux seules perspectives humaines. Et ses calculs, ses choix éthiques s'en sont trouvés bien rapetissés, bien petits. Et nous voyons, me semble-t-il, ici, le lien entre la confiance que l'on peut avoir et garder en Dieu et la qualité des choix éthiques que nous faisons. Un lien entre la confiance que nous avons en Dieu et la qualité des choix éthiques, des décisions de vie que nous prenons. Il faut de la foi pour faire des choix éthiques forts. Il faut croire que ces choix que l'on fait peuvent déboucher sur quelque chose de bon, même s'ils coûtent ou même s'ils sont un peu dangereux. Certains ont cette foi et c'est en leur valeur, en leur combat, sans même croire en Dieu. Mais ils ont foi en ce qu'ils font. Et cela leur permet parfois d'avoir des attitudes morales élevées, courageuses, sacrificielles parfois. Nous croyons, en tant que chrétiens, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous croyons que Dieu veille sur ceux qui cherchent à lui être fidèles. Nous croyons que Dieu est le garant du bien et de la justice. Nous croyons qu'il est capable d'intervenir dans nos situations humaines. Nous croyons qu'il sait honorer nos choix de fidélité. Nous croyons qu'il sait aplanir le chemin du juste. Nous croyons qu'il fera triompher la justice de manière totale lorsque Jésus reviendra et qu'il jugera les vivants et les morts. Et cette confiance que nous avons en Dieu doit nous aider à faire des choix de vie qui sont consistants, des choix de vie qui sont solides, des choix de vie qui sont cohérents, des choix de vie qui sont généreux. Il faut à certains moments beaucoup de foi pour rester droit et ne pas céder aux calculs, ne pas céder aux combines. Il faut beaucoup de foi parfois pour garder nos valeurs, envers et contre tout, agir selon notre conscience. Il faut beaucoup de foi aussi parfois pour rester bon lorsque cette bonté a été un peu outragée ou déçue, pour rester généreux, pour pardonner, pour rester patient, pour rester aimant. Demandons à Dieu cette confiance en lui, cette confiance qu'il est là, qu'il nous accompagne dans nos choix, pour que nous puissions vraiment faire des choix de vie forts, des choix de vie qui comptent, des choix de vie consistants en face des situations que nous trouvons. Demandons à Dieu de garder vraiment la boîte de nos perspectives ouvertes sur lui. Demandons-lui de nous préserver, de faire comme Abraham qui avait fermé la boîte de ses perspectives aux seules possibilités humaines, qui avait mis Dieu, on ne sait pas pourquoi, en dehors de tout ça, et qui avait fait des choix bien petits et bien médiocres. Dieu veut être pour nous une source de confiance suffisamment forte pour que nous osions nous tenir debout et faire ce qui est bien. Quelques mots rapides sur la suite de cette histoire. Ce qu'Abraham redoutait est arrivé. Pharaon a pris sa femme pour son harem. Mais il faut dire que quand même, Abraham avait largement facilité les conditions pour que ça se passe comme ça. Il avait enlevé le seul obstacle qui aurait peut-être pu empêcher Pharaon de prendre Sarah, le fait qu'il sache qu'elle était son épouse. Et voilà Sarah dans le harem du Pharaon, prise en charge par une servante pour la préparer à être reçue un jour par le grand roi d'Égypte. Des semaines de préparation certainement, et pendant ce temps, la drôle de vie pour Abraham. Abraham est honoré par Pharaon pour cette belle femme qui est maintenant dans son harem. Abraham est honoré par le Pharaon à qui il avait menti. Abraham reçoit petit et gros bétail, serviteurs et servantes. Et ceci pendant que Sarai est, elle, dans sa prison dorée et parfumée. Se voit-il ? Peut-être. Que peuvent-ils se dire ? On ne le sait vraiment pas. Mais c'est ici que le texte biblique est magnifique. Deux mots ressortent soudain. On envisage cette situation de Sarai. Mais les l'Éternel, nous dit le texte au verset 17. Mais l'Éternel intervient. Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Sarai. Mais l'Éternel. Le Seigneur n'est pas pris en compte, n'est pas invoqué par Abraham dans cette situation, mais il intervient. Il frappe le Pharaon et sa cour de grandes plaies. Je ferai du bien à qui te fera du bien, je ferai du mal à celui qui te fera du mal, avait dit le Seigneur. Et on ne met pas longtemps au palais de Pharaon à faire le lien entre cette plaie et la nouvelle venue dans le harem. Sarah est convoquée, la vérité éclate. Et voilà à présent Abraham de nouveau, Abraham et Sarah devant le Pharaon. Et qui est de sermon ce jour-là? Qui est de sermon ce jour-là? Ce n'est pas Abraham le croyant qui fait le sermon, c'est Pharaon, le mécréant, celui qui se prenait pour Dieu. En quelques paroles, il remet en place toutes les valeurs. Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur » aussi, je l'ai prise pour femme? Pauvre Abraham, au fond de lui, il connaît la réponse à toutes ces questions. Pourquoi t'as fait ça? Ben oui, pourquoi? J'ai pas eu confiance, j'ai eu peur, j'ai fait des calculs minables. Pourquoi? Wow, quelle honte! Pauvre Abraham, appelé à être une bénédiction, témoignage pour toutes les familles de la terre, et qui se fait sermonner par le pharaon d'Égypte pour sa petitesse, pour sa peur, pour ses piètres mensonges. Et qui prend les bonnes décisions, les dispositions généreuses, les dispositions éthiques, pourrions-nous dire, c'est Pharaon qui rend Sarah à Abraham, qui les chasse et ordonne qu'on les protège, ne leur fait pas de mal. Et les voilà ensemble, tous les deux à nouveau, tous les deux, on les sauve. Mais pas par leur calcul, grâce à celui qu'ils avaient exclu de leur calcul et qui a daigné intervenir dans la situation. Mais l'Éternel, nous dit le texte. Ils ont avec eux des richesses supplémentaires acquises en Égypte, du petit et du gros bétail, des servantes, des serviteurs. Peut-être Agar, l'Égyptienne, vous savez, dont on parlera plus tard, peut-être que c'est de là qu'elle vient. Pharaon n'a rien repris de ce qu'il avait donné. Il voulait s'assurer de ne rien faire de mal à ces deux-là. Mais il ne l'a pas fait par estime pour eux. Il l'a fait à cause de la main de leur Dieu qu'il avait vue à l'œuvre contre lui. Pour Abraham, ses richesses ont dû longtemps réveiller des souvenirs bien pitoyables et raviver des moments dont il n'était vraiment pas fier, vraiment pas fier. Quel bilan d'événements ? La honte, certainement. La honte cuisante pour Abraham, l'homme de foi, dont la foi a dévissé gravement. Il s'est mis par son attitude dans une situation bien plus grave que la famine qui l'avait poussé à agir tout seul. Mais avec la honte, il faut dire, Abraham a aussi reçu un message très fort, fort, vraiment. Dieu ne l'a pas abandonné, alors même que lui, Abraham, l'avait laissé sur la touche. Dieu a été fidèle à sa parole, alors même qu'Abraham avait oublié cette parole. « Je ferai du bien à qui te fera du bien, je ferai du mal à qui te fera du mal. » Je suis sûr que pendant tout le temps du voyage du retour, Abraham a oscillé entre honte extrême et gratitude extrême. Certainement, les deux choses ont dû se mêler pour lui. Et on comprend que la première chose qu'il a faite en retournant dans le pays que Dieu lui avait promis sera de revenir à l'autel qu'il avait bâti auparavant et d'invoquer à nouveau le nom de l'Éternel. Mais de l'invoquer riche d'une expérience de Dieu toute nouvelle, riche de l'expérience de sa grâce envers et contre tout, et malgré toutes les petitesses humaines. Et pour nous qui lisons ce récit, quel bilan! Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, ce n'est pas simplement le Dieu du grand héros de la foi et de l'obéissance. Le Dieu d'Abraham, c'est aussi le Dieu du grand héros qui a flanché, qui s'est retrouvé petit et bien pitoyable. Le Dieu d'Abraham est le Dieu qui forme Abraham, qui le fait grandir, qui le forme avec ses grandeurs et avec ses petitesses. Il est le Seigneur qui nous forme avec nos grandeurs et nos petitesses aussi, et avec tellement de grâce, avec tellement de grâce. Je termine par une citation que je trouve magnifique d'un théologien de l'Ancien Testament qui s'appelle Wilhelm Fischer. Et voilà ce qu'il écrit à propos de ce récit. Abraham n'est pas le père des personnalités bien pensantes, mais le père de ceux qui tombent toujours et toujours sont relevés par une main invisible. Le père de ceux qui tomberont toujours et toujours seront relevés par celui dont la force se manifeste envers ceux qui sont faibles. Ce n'est pas Abraham qu'il faut glorifier, mais la puissance de celui qui seul est bon, bon pour juger et bon pour relever. Abraham n'est pas le fondateur d'une secte d'hommes qui vivraient parce qu'il serait meilleur que les autres. Lui et son peuple vivent de la grâce de celui qui les a appelés, eux pécheurs, à cette lumière. Fin de la citation. Et nous vivons aussi de cette grâce-là. Amen.